Le voleur de panda par Alain Surget, deuxième cassette, deuxième face, page 67. L'aurore. Un gros soleil rouge flamboyait derrière les arbres, profilant des sapins noirs au sommet des collines. Lifong remarqua qu'en amont, les eaux changeaient de couleur. Elles devenaient bleu-argent, d'un glacis de plomb, plus vives, plus souples, bondissant sous la quille. Un peu avant d'atteindre Niuxichang, N-I-U-X-I-C-H-A-N-G, ils surprirent un groupe de paysannes vêtues d'uniformes bleus en train de battre le paddy à l'aide d'une large batteuse à moteur. Le paddy, c'est le grain de riz encore enveloppé dans sa balle, sa peau. On l'appelle aussi le riz complet. On bat le riz comme on bat le blé. Celles qui appliquaient les extrémités des bottes de riz sur le tambour à pointe portaient des masques sur le visage pour éviter de respirer la poussière. Les grains tombaient à terre, tout de suite ensachés par d'autres femmes, tandis que les pailles étaient assemblées en meules. De l'autre côté de la rivière, à l'ouest, une brigade de plus de 1000 hommes travaillait à la construction d'une route. Ils avaient déposé leurs bicyclettes sur la berge en une singulière barrière métallique qu'accrochait une myriade de reflets lumineux. Les hommes s'activaient à la main, sans machine ni tracteur, chargés de pelles et de paniers, attaquant la rocaille à la pioche, charriant la terre et les pierres dans des corbeilles juchées sur leurs épaules. Le sampan passa, laissant derrière lui des nuages de poussière jaune. Ils traversèrent un paysage de champs soignés et de villages lovés au fond de vallées isolées, parmi les collines et les montagnes. Le relief, à droite, ressemblait à une mâchoire de crocodile garnie de dents redoutables. Les dépressions se firent plus rares entre les collines, les champs disparurent bientôt derrière le plateau brutalement redressé. Des falaises tombaient à pic au-dessus du cours d'eau. En même temps, la rivière devint plus sauvage, se creusant furieusement autour des rochers tombés des parois et fichés dans son lit, tels des ailerons de pierre. Campé à la proue de son bateau, Ming évitait les écueils à coups de gaffe pendant qu'il criait ses directives à l'enfant cramponné à la barre. « Barre à droite, barre à gauche, ne bouge plus, laisse aller !» Le moteur peinait dans le courant. À un moment, le bonhomme dut bondir à l'arrière, couper les gaz et basculer le moteur pour éviter que l'hélice ne se brisât contre les blocs. Le sampan faillit tourner sur place, mais, redressé par de vigoureux coups de perche, il fila par l'arrière et vint se stabiliser dans le contre-courant au pied de la falaise. Ming rétablit le moteur, relança les gaz et se mit à longer la paroi à faible allure. De temps à autre, l'embarcation raclait la pierre, tremblant de toute son armature, arrachant des filets de terre qui s'accumulaient en cônes rougeâtres sur le plat-bord. Il leur fallut plus de 3 jours pour remonter jusqu'à Vu Tong Kiao, WU T-O-N-G, Q-I-A-O, notre dernière grande ville, au dire du vieil homme. Ils la passèrent sans s'arrêter, retrouvèrent les falaises qui s'étaient desserrées pour former la cuvette occupée par la ville.
Il n'en finit pas ce défilé, se plaignait l'enfant, fatigué d'avoir pour seul horizon des murailles qui s'effritaient à chaque heure.
À force, il avait l'impression de vivre dans un tunnel, comme un escargot coincé dans sa coquille. Il étouffait, ressentait une furieuse envie de hurler, de courir. L'homme l'envoyait alors vers le panda. L'animal avait la particularité de l'apaiser, rien que par sa présence. Lifong restait un long moment, les bras passés à travers les barreaux, les mains enfouies dans la fourrure, lui parlant doucement. Kim, le panda, interrompait ses repas, le gratifiait de grognements de sympathie, puis venait étaler sa langue sur les joues qui s'offraient. Le garçon demandait souvent à Ming de libérer le panda, ne fût-ce qu'une heure par jour, pour lui permettre de respirer un peu d'air frais, de se dégourdir les pattes, mais le bonhomme refusait obstinément, prétextant que l'animal était beaucoup plus en sécurité à l'intérieur. En fait, il redoutait par-dessus tout les regards indiscrets. Ce matin-là, comme Li sortait de l'habitacle après avoir nettoyé la cage, il surprit Ming, main en visière, en train d'observer le sommet de la falaise.
L'enfant leva la tête à son tour, cligna des yeux dans le soleil naissant, finit par distinguer un cavalier qui s'était arrêté pour les étudier. Le garçon interrogea l'homme du regard, ce dernier se contenta de grogner et l'envoya à la barre. Il obéit, mais ne put s'empêcher de constater que le vieux avait la mine soucieuse. Le moteur vrombit, le sans-pan se détacha de la rive. Là-haut, le cavalier se mit en marche. Ils naviguèrent durant plusieurs heures, jetant de fréquents coups d'œil sur la silhouette qui les escortait. Ming ne desserra pas les dents de toute la matinée. Li le sentait tendu, inquiet. Qui était l'inconnu? Pourquoi les surveillait-il? Le garçon savait que ce n'était pas pour le sauver, le vieil homme lui ayant fait assez comprendre qu'il n'était qu'un grain de poussière dans la ville et que personne, hormis son père, ne s'intéressait à lui. Mais que pouvait son père? Il était à 100 lieues d'imaginer que son fils remontait le Minjiang en compagnie du voleur de pandas. Non, vraiment, Li n'avait à attendre de secours de personne. Alors l'autre, là-haut, il éprouva les tiraillements de la peur et pour la première fois se sentit solidaire du voleur. Ils devaient tous deux lui échapper. Un peu avant midi, le cavalier disparut.
« Ne te réjouis pas trop vite, il va réapparaître, » dit Ming. « Il contourne un bosquet, un obstacle ou quelque chose comme ça. »
« Mais qui peut-il être? Vous avez une idée, vous ?»«
Pas la moindre. Je ne l'avais jamais aperçu les fois précédentes. »«
Il a pu vous repérer, lui, dans vos allées et venues ?»«
Peut-être. À moins qu'il ne nous ait découvert par hasard. Dans les deux cas, il ne nous lâchera pas avant de nous avoir délestés de ce que nous transportons. »«
C'est un bandit? Un pirate des rivières ?»
« Possible, marmonna le vieux, possible. »
Pourtant, au fil des heures, l'étrange personnage ne reparaissait pas.
« Un simple curieux, » admit le bonhomme qui reprenait confiance.
« C'est dingue, n'empêche !»«
Qu'est-ce qui est dingue ?
De voir qu'on se déplace encore à cheval à notre époque. »
Ming grommela comme s'il mâchait des mots avant de les avaler.
Qu'est-ce que vous dites?
Tu es un gosse des villes. Tu n'as jamais dû quitter Chongqing et tu penses que le monde est obligé de ressembler à ton petit univers.
Le vieil homme surveillait un éperon rocheux à l'avant du bateau. Il l'évita d'une poussée et reprit.
Qu'est-ce que tu penses du travail de ces femmes qui battaient le paddy l'autre jour? Ou des hommes qui construisaient la route avec le sang de leurs mains?
Mais qu'on leur donne des machines, c'est ce qu'on fait dans les fermes d'étage, je l'ai appris à l'école.
Et quand les campagnes crouleront sous la technique, que se passera-t-il?
Eh bien, les travaux seront plus vite faits, mieux faits.
Je vais te dire, moi, ce qui se passera, dit Ming. Les paysans n'auront plus leur place dans les champs, parce qu'une poignée d'hommes suffira à conduire les tracteurs. Ils abandonneront la campagne à ces énormes insectes rouges, et ils déferleront dans les villes. Les spécialistes appellent ça l'exode rural. Mais pour moi, c'est une déroute.
Il y eut un léger silence. Ming poursuivit.
C'est inévitable, sans doute, mais la Chine n'est pas encore prête. On t'a parlé du yin et du yen, les deux principes opposés et complémentaires du taoïsme, notre plus vieille religion.
« Oui, » dit Li.
« Eh bien, imaginons que la campagne et la ville soient le yin et le yen de la Chine, son passé et son futur. Chacun apporte l'équilibre à l'autre, mais nul ne doit étouffer l'autre. Sinon, c'est la rupture, le bouleversement, le plongeon dans le chaos. »
Ming cracha dans ses mains avant d'appuyer sa perche sur un rocher.
La bonne voie consiste à trouver le juste milieu, à éviter les extrêmes. C'est ce que n'ont pas fait les sociétés occidentales.
Et alors, demanda Li.
Et alors, elles ont perdu leur âme.
Au cours de l'après-midi, ils longèrent un village de troglodytes, des gens qui habitaient dans des cavités qui trouaient la falaise alignés sur plusieurs rangs comme des orbites vides. Des passerelles en bois étaient accrochées à la paroi, zigzaguant d'un trou à l'autre. Des cordes pendaient jusque dans les tourbillons limoneux et permettaient aux gens de se laisser glisser de leur caverne directement sur leur bateau. Deux, trois embarcations dansaient sur le flot, ressemblant davantage à des pirogues qu'à des sampans. Pas une fumée, pas une silhouette ne se laissait voir dans ce vertige de roches nues, mais Lee sentait peser sur lui des regards aussi aiguisés que des lames de couteau. Il frémit. Hormis le bruit de l'eau et les ahans de Ming luttant avec les rocs, il planait un silence de pierre. « Je n'avais jamais vu de village dans les airs, » avoua Li Fong un peu plus tard. « De quoi vivent ces gens ?»«
De pêche et d'œufs. »«
D'œufs ?
Mais ce sont des Chinois ?»«
Des Han, comme toi et moi. » Le peuple Han, H-A-N, occupe le centre de la Chine et représente 95% des Chinois. Un nouveau silence. L'enfant sourit de voir l'homme sauter de droite et de gauche pour éviter que la coque ne heurtât les écueils. « Je me demande comment vous auriez fait sans moi, » dit-il. « Il n'est pas possible de naviguer seul sur cette rivière. »«
Je l'ai fait pourtant, » répondit Ming, « en attachant des poulies au drail et en fixant une corde à la barre, j'arrivais à manœuvrer le gouvernail de l'avant tout en maniant la perche. C'était plus long, plus épuisant, c'est vrai. »
La gorge s'élargit. Des bosquets s'accrochaient au pied des falaises. Ming dirigea le sampan vers une pente boisée qui frangeait le socle de la muraille. « On s'arrête ?» demanda le garçon.
« Je veux te montrer quelque chose. »
Ils amarrèrent le bateau contre la berge et descendirent. Sitôt qu'il posa le pied sur le sol, Li Fong chancela. « J'ai plus l'habitude. » Après tant de temps passé à osciller sur l'eau, il ne savait plus marcher normalement sur le sol ferme. « On laisse le panda tout seul ?»«
Il n'y a personne ici, et puis nous ne serons pas longs. »
L'enfant s'inquiétait de savoir où l'emmenait le voleur. Ils franchirent rapidement le petit bois de sapin, se retrouvèrent le nez contre la paroi qui tombait à pic du haut de ses 300 mètres. Lee eut un petit sourire en coin quand il demanda « Hein, et maintenant ?»«
Maintenant, répondit le vieux d'un ton enjoué, « maintenant on monte. »
« Hein ?» Le cri lui était sorti de la bouche. Il ouvrit des yeux ronds et bafouilla. « On grimpe là-haut ?»«
Qui parle de grimper ?»
Ning conduisit le garçon vers une espèce de nacelle dont les planches avaient été renforcées par des morceaux de ferraille. En approchant, Li Fong remarqua que deux cordes y étaient fixées, pendant comme des lianes du flanc de la montagne. Il leva les yeux, les vit se perdre tout là-haut, entre ciel et pierre. « Mais vous êtes fou !» gémit-il dans un souffle.
« Rien à craindre, » dit le bonhomme en le forçant à s'installer dans la caisse. « Les poulies sont solidement ancrées dans la falaise. Elles sont à crémaillère, ce qui fait que tu ne risques pas de nous faire dégringoler si tu lâches ta corde. »
L'enfant regarda Ming jeter son sac dans la nacelle et empoigner sa corde.
« Mais, bégayait-il, incapable même de songer à s'enfuir. Tu vas découvrir quelque chose, sans compter la vue qu'on a de la vallée. Allez, on tire ensemble.
Hein ?» Un seul côté monta, projetant Li Fong par-dessus bord. L'homme la grippa par le bras et le ramena devant sa corde. « J'ai dit ensemble.
Imagine que ce soit arrivé à mi-hauteur.
Mais j'ai peur. »
« Justement, allons-y. »
Lee tirait, hissant la nacelle par à coup. Le nez collé sur la corde, il sentait qu'il s'élevait à chaque traction. À la longue, ses forces faiblirent et Ming lui accorda un instant de pause. Il s'extasiait sur les beautés de la roche nue, sur l'incision du lit de la rivière à travers le plateau, sur les chapeaux de forêt qui apparaissaient comme des champignons noirs au milieu des cultures.
« Regarde, disait-il, regarde comme ce qui est sauvage et beau. Ce ne sont plus les torchères, mais le vol des oiseaux qui montent dans le soleil. »
Li Fong tenta un coup d'œil derrière lui. Le paysage était une miniature, un puzzle de couleurs. L'horizon oscillait dans le lointain. L'enfant ressortit une sorte d'ivresse, puis tout de suite après, le tournit. Il se retint à la corde. J'ai le vertige, ça tourne, ça m'aspire, je vais sauter.
Ming le prit par l'épaule et le plaça face à la paroi.
Fixe la pierre, conseilla-t-il. Ça va se calmer dans ta tête. Tu es comme l'oisillon au bord du nid, tu respires le vide, tu t'emplis du désir de liberté, mais il te manque encore la sagesse qui fait battre les ailes. Respire lentement, à plein poumon.
Là, c'est mieux ?
Oui.
Tu commences seulement à apprendre. Contrôle tes gestes, domine ta peur. Tu n'as pas idée des tentations qu'offre la montagne pour s'amuser de l'imprudent.
Ming donna le signal de la remontée. Li fut incapable de reprendre sa corde et la nacelle se mit à tanguer dangereusement. Le voleur s'emporta, usa de mots violents qui frappèrent l'enfant comme des coups au ventre. Li fit un effort sur lui-même, attrapa la corde, tira en même temps que l'homme. Un geste entraînant l'autre, ils finirent par se retrouver au sommet de la falaise, juste sous un surplomb qui abritait un embrouillamini de buissons et de racines. Des nids. Ming plongea ses mains dans les rameaux pour tâcher de dénicher des œufs. Un éclair blanc, une chute de plumes, un autre encore, une flopée d'oiseaux s'abattit sur eux, criaillant de colère. Le vieil homme s'accroupit, fouilla dans son sac, sortit une grosse crécelle qu'il agita frénétiquement. Le bruit fit s'enfuir les oiseaux dans un grand battement d'ailes. Ils virèrent dans l'espace, chargèrent à nouveau, bec et serre en avant. Le crépitement brisait les assauts. Les oiseaux frôlaient la nacelle en jetant des cris perçants, puis remontaient en volute avant de se laisser choir du fond des airs.
« Prends la crécelle !» cria Ming à l'enfant prostré dans un angle. « Fais-la tourner bien fort, ça les tient à distance. »
Li Fong saisit le moulinet, mais la terreur qui broyait ses entrailles, sciait ses membres, l'empêcha de le faire tourner de plus d'un quart de tour. Crrr ! Les oiseaux plongèrent. Un hurlement « Ah !» La tête de Ming disparut dans un tourbillon de plumes. Le garçon comprit que s'il ne réagissait pas, l'autre allait tomber et lui resterait perché là-haut pour l'éternité. Surmontant sa panique, il se dressa, se mit à agiter furieusement la crécelle. La masse éclata, les éclairs blancs jaillirent en éventail, pareil aux gerbes d'étincelles d'une explosion.
« Eh, il était temps !» grogna le bonhomme.
Il enfouit sa main dans un nid et rapporta un gros œuf. « Mais je croyais que les oiseaux ne pondaient qu'au printemps, » s'étonna l'enfant.
« Pas cela. Ils pondent toute l'année, comme des poules, mais ne couvent effectivement qu'au printemps. »
En un quart d'heure, le sac était rempli. Ils redescendirent. À mi-chemin, Ming arrêta la caisse. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» s'inquiéta Li.
« Je sais que tu as envie de quitter au plus vite la nacelle, la falaise, les oiseaux pour oublier ta peur. » Mais ce n'est pas ainsi que tu t'en débarrasseras. Elle viendra t'assaillir la nuit, à travers tes rêves. Non, tu dois la vaincre ici, afin que tu ne frémisses pas à son souvenir.
Comment ?
C'est simple. Assieds-toi sur le rebord et déguste avec moi ses œufs.
Ming tapota le fond d'un œuf avec son couteau. La coquille se brisa. Il appliqua ses lèvres sur le trou, renversa la tête en arrière et aspira longuement. L'enfant hésitait à l'idée de s'adosser au vide. Il s'y résolut pourtant en tremblant. Il savait que Ming ne lui permettrait pas de redescendre avant. Il prit un œuf, fit son trou, se mit à téter. Il décolla sa bouche trop tôt. Un filet jaune se répandit sur son menton.
« Il te faut aussi apprendre à manger, » remarqua le vieux d'une voix amusée.
Li ne put s'empêcher de rire. Leurs regards se croisèrent. Pendant un bref instant, il avait oublié sa peur. « C'est tout ça que vous vouliez dire le premier jour quand vous me parliez d'apprendre ?»«
Oui, et je sens que tu as presque envie de me tutoyer. »«
À certains moments, oui, à d'autres, non. Ça dépend de...
Viens, le coupa Ming. Il ne faut rien brusquer. Kim se languit en bas, il nous attend.
Une mauvaise surprise les attendait au sampan. L'embarcation avait été fouillée, retournée de fond en comble. Les bidons d'essence jonchaient la plateforme, jetés pêle-mêle avec les ustensiles, les lampes, les couvertures. Saisis d'une terrible appréhension, ils se ruèrent dans l'habitacle. Le panda était là, terrorisé, au fond de sa cage. Des traces sur les barreaux et des entailles sur le cadenas témoignaient qu'on avait voulu forcer la grille.
« Une chance que la cage soit vissée sur le fond, constata Lee. Sinon, il l'aurait emportée. »
« Nous sommes rentrés trop tôt pour lui permettre de réussir, mais il ne doit pas être loin. »«
Vous pensez au cavalier de ce matin ?»«
Qui donc ?»
Ming souleva les lattes du plancher, extirpa un long paquet en chiffon qu'il déroula.
« Un fusil !» s'exclama l'enfant.
« Heureusement qu'il ne l'a pas découvert, sinon nous serions aussi nus que des vers de terre. »
L'homme confia la garde du panda au garçon, mais lui conseilla de se sauver à toutes jambes s'il entendait claquer des coups de feu. Puis il sortit. Il explora l'orée du bois, releva des traces de fer à cheval et des empreintes de semelles.
L'inconnu est seul. Sa monture est peu chargée. Ce n'est peut-être qu'un pillard solitaire, mais maintenant qu'il a vu le panda, il ne va plus nous lâcher. Il est temps de quitter le Minjiang.
De retour au sampan, Ming permit à Lifong d'ouvrir la cage de l'animal afin de calmer celui-ci dans ses bras. Quand le vieil homme pénétra dans l'habitacle après avoir récupéré et rangé ses objets, il les trouva tous deux apaisés, chaleureusement blottis l'un contre l'autre.
« Nous allons repartir. Les Shan, L-E-S-H-A-N, n'est plus très loin. »
Une heure plus tard, Li découvrait avec stupeur la statue géante d'un Bouddha assis, sculpté dans le roc, et dont le visage rayonnait de sérénité. Le drapé qui lui tombait de l'épaule était si finement taillé qu'il donnait l'impression d'être lié au corps. Une fausse grotte s'ouvrait autour de lui, creusée en forme de feuille de lotus, symbole de recueillement. La falaise s'abaissa brutalement, offrant l'accès à un monastère. L'ensemble était ceint de hautes murailles, d'où s'échappaient des toits à double console, rehaussés de décorations vertes et jaunes. Des moines en tunique safran chantonnaient un rituel en faisant tourner leur moulin à prière. Ce long bourdonnement monocorde courait dans les pierres comme un bruissement d'eau.
« On s'arrête ?» s'étonna Lee.
« Ouais, on va passer la nuit près du temple. J'espère que cela dissuadera le cavalier de nous attaquer. Demain, nous échangerons le sampan contre des ânes et des mulets que les moines nous reprendront au retour.
Ils savent ce que vous faites ? »
Pas de réponse. Lee préféra changer de conversation. Il demanda
on ne va pas jusqu'à l'échane ?
Non. J'aimerais que celui qui nous surveille croie que je fais don de l'animal au monastère. Il nous y verra entrer à l'aube, mais non ressortir.
Je ne comprends pas.
Il y a une seconde porte de l'autre côté. Elle nous permettra de monter directement dans la montagne.
Mais si l'autre suit le même chemin ?
Ming émit un petit rire.
Pas de danger.
Ils dînèrent sur le sampan d'un bol de riz et de morceaux de canard achetés aux bouddhistes. Ming avait renforcé la porte de l'intérieur avec des planches et posé son fusil chargé à côté de lui.
Mais s'il prenait envie aux bandits de... lâcher le bateau dans le courant et nous agresser en aval.
C'était la troisième hypothèse qu'imaginait l'enfant. Le danger les avait rapprochés, resserrés autour de la flamme de la lampe. Le vent se leva au cours de la nuit, soufflant de la montagne vers la vallée. Il sifflait entre les gorges, faisait hurler les trous dans les falaises.
Essaye de dormir un peu, murmura Ming en remontant sa couverture sur l'enfant.
« Je pense à l'inconnu. »«
Bah, avec ce vent, il a dû renoncer. »
C'était dit sur un ton qui se voulait rassurant, mais le vieil homme lui-même n'avait pas l'air d'y croire. « Pas seulement au cavalier, je pense, termina Lee, mais à tout ce qui m'attend. »
Fin
de la deuxième face de la deuxième cassette, page 86, Le voleur de panda par Alain Surget.